Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Noéla Lusitu Kababi. Au moins 25 civils ont été tués hier après-midi dans une attaque attribuée aux ADF à Maïkengo, village du secteur de Bapere et dans le territoire de Lubero. L'administrateur du territoire de Lubero annonce le renforcement de la présence des FRDC dans la zone. Des millions d'enfants congolais âgés de 0 à 5 ans sont vaccinés gratuitement depuis ce jeudi contre la poliomyélite dans différentes provinces du pays. Dans ce journal, nous serons dans les provinces de Kwilu dans l'ouest et de la Tchopo dans l'est du pays. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'invité de ce journal, Monseigneur Donatien Cholet, va commenter l'investiture du gouvernement souminois et va aussi parler de l'accompagnement de l'Église catholique pour la mise en œuvre du programme présenté par la Première ministre. Bonjour à tous. D'abord, cette information sur la désignation par le chef de l'État de Anthony Kinzo Kamole comme son nouveau directeur de cabinet en remplacement de Guilain Nyembo, nommé ministre du Plan. C'est au terme d'une ordonnance présidentielle rendue publique ce jeudi à la RTNC. Jusqu'à sa nomination à la présidence de la République, M. Kinzo était directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC Anapi. Le nouveau DIRCAB était aussi, depuis juin 2022, président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements RIA-FP. Dans la province du Maniema, après plusieurs réclamations et promesses faites par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, aux habitants du Maniema d'intégrer le gouvernement souminois, le bureau des inspecteurs des droits de l'homme se dit indigné de constater que ce gouvernement est investi sans que le Maniema soit représenté. Crispin Muyololo Ndariloko appelle la première ministre et le chef de l'État à prendre en compte cet état des choses. Crispin Muyololo est au micro de Florence Kizalunga.
Pour nous, c'est une déception, c'est un chagrin de voir le gouvernement être publié et être investi sans que nous ayons un enfant de la province du Maniema puisse être dans ce gouvernement, alors que nous avions formulé autant de revendications pour le président de la République afin que l'article 93 puisse être respecté. Le Maniema fait partie de la République démocratique du Congo, mais écarté sciemment par ce gouvernement soumis à un. Et au-delà de cela, nous avons aussi constaté le programme qui a été défendu à l'Assemblée par la Première ministre de la République, le Maniema est totalement oublié parce qu'on ne voit pas le projet du Maniema, à ce qui concerne les routes, à ce qui concerne l'eau, à ce qui concerne les routes des déserts agricoles, être incorporé dans ce programme. C'est pour autant dire que c'est pour la deuxième fois que le Maniema est oublié au grand rendez-vous du gouvernement national. Et à cela, nous demandons encore au président et à la Première ministre d'intégrer le projet de la province du Maniema parce que nous faisons partie aussi des Congolais.
Restons dans la province du Maniema. Ils sont 22 970 candidats de la 7e année du degré secondaire, dont 10 107 filles, soit 44%, qui participent à l'épreuve de TENASOSP, test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Contrairement à la dernière, on enregistre un accroissement de plus de 7%, soit 21 375 candidats. Tous les candidats à ce test sont répartis dans 79 centres disséminés dans toute la province éducationnelle Maniema 1, dont 32 centres dans la ville de Kindu. Nous en parlions dans le sommaire. Au Nord Kivu, au moins 25 civils ont été tués hier après-midi dans une attaque attribuée aux ADF à Maïkengo, un village du secteur de Bapere dans le territoire de Lubero. La société civile parle d'un bilan encore provisoire et rapporte que plusieurs maisons ont été incendiées par les assaillants. La population de Maïkengo vient de vider les milieux pour se déplacer vers des milieux jugés plus sécurisés. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, confirme ces informations. Il annonce aussi le renforcement de la présence des FRDC dans la zone. Il est au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Dans le village Maïkengo, il y a eu attaque de terroristes ADF Nalu. Et au moment où je vous parle, le premier bilan que nous avons eu est de 25 personnes tuées. Il y a deux maisons brûlées, incendiées. Il y a plusieurs blessés. Nos forces armées sont déjà sur place. Et depuis hier soir, pour sécuriser le village, ses environs, sécuriser également la population et leurs biens. Et je demande seulement à la population d'être calme et d'avoir confiance à l'autorité et à nos forces de défense. Il y a aussi des déplacements déplacés, qui ont vidé leur village. Et maintenant, au moment où nous parlons, se réfugient au niveau de chef-lieu du secteur, qui est à Mangurujipa, ses environs, donc en Diapanda. Et certains, nous apprenons que sont déjà vers Butembo.
À noter que c'est la deuxième attaque des ADF dans le territoire de Lubero après celle de mars 2023 qui avait occasionné la mort d'au moins 14 civils dans le village de Nguni. Pour rappel, au moins 79 autres civils ont été tués la semaine dernière dans des attaques des ADF dans le territoire de Beni, rapporte la société civile, 41 personnes selon un communiqué du gouvernement congolais. Notez par ailleurs que c'est depuis plus d'une décennie que les forces démocratiques alliées ADF, aujourd'hui affiliées au mouvement terroriste de l'État islamique, commettent des exactions graves contre les civils dans la région de Beni au nord Kivu. Malgré les différentes opérations militaires et l'état de siège décrété il y a 3 ans, ce sont des milliers de civils qui sont déjà tués par cette rébellion d'origine ougandaise et qui a réussi tout de même à étendre sa zone d'exaction dans la province voisine de l'Ituri. Explication Martial Papimukeba.
Le 16 janvier 2014, les FRDC lancent l'opération militaire Sokola 1, attendue par la nettoyée pour la neutralisation des ADF. C'est après les kidnappings par cette rébellion des centaines de civils dans plusieurs villages du territoire de Beni. En quelques mois, cette opération militaire va permettre à l'armée de récupérer Medina, qui était à l'époque le quartier général des ADF. Malgré ces succès, la nuisance des ADF ne sera pas terminée. Le 15 octobre 2014, les ADF vont commettre la première tuerie de masse à Beni. 27 civils sont tués en Gadi et Kadou, des quartiers de la ville. Depuis, des milliers de civils ont été tués par les ADF dans la région. Selon certaines sources, en 10 ans, au moins 14 300 civils ont été tués. D'autres avancent les chiffres de 17 000 civils tués, en plus des dizaines de milliers de personnes kidnappées et des centaines de maisons et structures sanitaires incendiées par les ADF. Jusqu'à ce jour, au moins 8 généraux des FRDC ont commandé à tour de rôle l'opération Sokola 1. Toutes les opérations militaires, d'un côté entre les FRDC et les casques bleus, et depuis le 30 novembre 2021 entre les armées congolaises et ougandaises, n'ont pas réussi à mettre fin au phénomène des ADF. Depuis 3 ans, ces rebelles qui se sont affiliés à l'État islamique ont même étendu leurs actions dans la province voisine de l'Ituri. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et justement en Ituri, 6 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres prises en otage au cours de l'incursion mardi des rebelles des ADF dans le village Masongo, chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. Des sources locales ajoute que 4 localités se vident partiellement de leurs habitants qui craignent l'invasion de cette force négative qui a installé ses bastions dans la région. Nombreux ont pris la direction du Nord Kivu, d'autres se cachent dans la brousse. L'administrateur du territoire, qui ne confirme pas encore ces informations, rassure tout de même que des opérations sont en cours pour traquer ces rebelles. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est en début d'après-midi de mardi qu'un groupe d'agriculteurs en quête des vivres dans leur champ, dans la localité de Masongo, est surpris par une cohorte des rebelles d'ADF venus de l'ouest de la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. Ces derniers ont ouvert le feu sur ces paysans. Une panique généralisée s'est vite répandue dans des entités voisines telles que Iloto, Mangutwa, Mabanga, qui, d'après nos sources, se sont vidées de leurs habitants. La société civile locale avance un bilan provisoire des 6 civils tués et plusieurs biens emportés. Une maison ainsi que quelques boutiques ont été pillées et incendiées par ces rebelles, ajoute un activiste des droits de l'homme dans la région. Des sources concordantes indiquent qu'un groupe de miliciens Mai Mai est intervenu pour déloger ces rebelles et se sont dispersés dans la forêt. Toutefois, l'administrateur du territoire de Mambasa, qui ne confirme pas encore ces chiffres, atteste que l'armée poursuit des opérations de traque de ces rebelles. Entre-temps, des activistes des droits de l'homme et ceux de la société civile du territoire plaident pour le renfort des militaires dans cette zone qui constitue une porte d'entrée de ces rebelles en provenance du Nord Kivu. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, notez qu'une centaine de militaires des FRDC suivent depuis hier une formation sur les techniques et tactiques de combat par des hélicoptères au camp d'Oromo à Bounia. Cette formation, qui va durer 3 semaines, est assurée par les contingents guatémaltèques et bengladais de la MONUSCO. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée congolaise pour combattre les groupes armés dans des régions difficiles d'accès. Isaac Rémo.
Une première équipe d'environ 100 militaires a été soumise mercredi à des exercices de déploiement dans les zones de combat par des hélicoptères. Ces soldats portant leurs armes et descendaient à tour de rôle à l'aide des cordes et des gants. L'hélicoptère de la MONUSCO a fait une dizaine de tours de la base militaire de Tseré à Ndoromo. Selon les formateurs du contingent guatemaltèque de la MONUSCO, ces exercices permettent aux FARDC de se déployer partout, même dans des zones inaccessibles, notamment dans les territoires de Djougou et Irumu où les groupes armés sont actifs, mais aussi de s'adapter à un environnement difficile, notamment les montagnes, la brousse et la forêt. C'est la prévision des opérations militaires conjointes FARDC et MONUSCO pour la restauration d'une paix durable en Ituri. Signalons qu'environ 400 militaires des FARDC suivent cette formation qui va durer 3 semaines. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, sur le front au nord Kivu, les combats se poursuivent ce jeudi encore entre l'armée congolaise et le M23 dans le groupement de Kanyabayonga, au nord de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Les sources sécuritaires dans la zone font état d'une attaque lancée depuis 4h du matin par l'armée congolaise et ses alliés contre le M23 près de Bulindi, une dizaine de kilomètres de la cité de Kanyabayonga. C'est avec l'objectif de déloger ces rebelles qui occupent ce village depuis une dizaine de jours, disent nos sources. D'autres acteurs de la société civile expriment une inquiétude face à la durée des combats sur cet axe. La menace de cette guerre a forcé des milliers d'habitants de la région à se déplacer vers le sud de Lubero et d'autres vers Ikobo dans le territoire de Walikale. Plus d'un 1 200 000 enfants de 5 ans sont attendus pour être vaccinés gratuitement contre la poliomyélite dans la province de Kwilu. Pendant la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la polio, une campagne couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole, la campagne a commencé évidemment ce jeudi. La cérémonie du lancement de la dite campagne a eu lieu au marché office des routes dans l'aire de santé de Bondeko à Bandunduville en présence de plusieurs autorités sanitaires, politico-administrative, sécuritaire ainsi que des partenaires. Irène Bomaluzolo.
Cette deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui va du 13 au 15 juin 2024 est organisée dans toutes les 24 zones de santé du Kwilu. Elle cible près d'un 1 206 522 enfants de 0 à 5 ans du fait de leur vulnérabilité accrue. Dans son adresse lors de la cérémonie du lancement mercredi à Bandundu, Dr Frédéric Bontango Kweme, assistant technique de l'OMS, a précisé ce qui suit.
Le vaccin VPO bivalent sera administré à tous les enfants de 0 à 59 mois. Chaque enfant recevra 2 gouttes de vaccin antipolio oral, la vitamine A, et sera déparasité à l'albendazole.
Prenant la parole pour lancer la dite campagne, Dr Arnold Kapalati, qui a représenté les gouverneurs des provinces, a lancé ce message.
Il n'y a pas un traitement, il y a poliomyélite autre que la vaccination. Et c'est un traitement préventif. Faisons effort pour faire vacciner nos enfants.
Précisons qu'avant le lancement de cette campagne, une caravane motorisée a été organisée dans les rues de la ville de Bandundu à ce sujet. Irène Boma, Bandunduville. Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, ce sont plusieurs enfants qui ne sont pas encore protégés contre le virus de poliomyélite sauvage. 5 cas confirmés ont été rapportés d'ailleurs dans 3 zones de santé, dont celle de la Tchopo, dans la ville de Kisangani. En vue d'éradiquer cette maladie paralysante, le ministère de la Santé a lancé ce jeudi aussi la campagne de vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans contre cette maladie. Elle va s'étendre jusqu'au 15 juin courant. Le lancement officiel a été présidé au foyer social de Kabondo par le gouverneur de province intérimaire, Jean-Norbert Lokula-Lolisambo, en présence notamment des partenaires techniques et financiers du gouvernement, à savoir UNICEF, OMS et Gavi. Un reportage de Jacques Moukonkole depuis Kisangani.
Les 5 cas de polio rapportés ont été notifiés par les zones de santé de Banalia et de Yaleko en raison de 2 cas chacune. Le 5e cas confirmé a été découvert dans celle de la Tchopo sur place dans la ville de Kisangani. Le chef de bureau de l'UNICEF, Mokhtar Han, explique ce qui sera fait concrètement pendant cette campagne.
Il s'agira de procéder à la vaccination des enfants de 0 à 5 ans contre la polio, à la supplémentation en vitamine A des enfants de 6 mois à 5 ans, au déparasitage à l'albendazole ont des enfants âgés de 1 à 5 ans. Et de ce fait, nous invitons tous les acteurs, notamment les vaccinateurs, les acteurs communautaires ainsi que les superviseurs à différents niveaux, à faire preuve d'abnégation afin que tous les enfants cibles bénéficient de ce service gratuit.
Pour sa part, la ministre provinciale de la Santé exhorte les parents à faire vacciner leurs enfants, car, souligne Bernadette Foura, la polio est une maladie extrêmement dangereuse.
Une maladie rend infirme nos enfants toute leur vie. Si l'on ne prend pas garde, risque de rendre nos enfants invalides, car un enfant contaminé peut à lui seul contaminer plus de 200 autres enfants.
Après ce lancement officiel, l'autorité provinciale et les partenaires techniques et financiers du gouvernement ont procédé à la vaccination symbolique de quelques enfants dans le quartier d'à côté. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Autre chose, l'Agence américaine pour le développement tient au respect des droits de l'homme dans le secteur extractif. Son directeur général en a fait l'écho hier au cours de la conférence de presse qu'il a animée en marge de la tenue de la 19e édition de la DRC Mining Week à Lubumbashi. Pour le responsable de cette agence américaine, l'objectif est que la RDC et son peuple profitent de leurs richesses. John Dunlop est au micro de Jean Gando.
Nous avons ciblé beaucoup les questions des droits d'homme dans le secteur des mines, le travail des enfants et d'assurer que le secteur c'est plus ou moins propre dans le sens que quand on achète soit le cobalt, soit les différents l'or, on peut connaître que l'extraction de cette minerai était faite avec un œil vers la justice et les droits d'homme, qu'on peut avoir fier d'avoir une bague qui est venue de République démocratique du Congo parce qu'on connaît que c'était produit avec un œil vers la justice et les droits d'homme. Maintenant, nous sommes en train de grandir notre focus sur les questions des mines et des minerais dans ce pays. C'est là où nous ciblons le bon gouvernance dans le secteur des minerais et d'assurer qu'il y a un environnement dans le secteur privé qui est équitable pour tous les gens qui veulent investir ici, qui n'a pas la corruption, et là où les minerais, ça vient de mines jusqu'aux gens qui utilisent ça, qui est propre. On peut connaître qu'on a trouvé le meilleur prix, non seulement pour les gens qui consomment les produits, mais aussi que le gouvernement et le peuple de RDC ont profité de leur richesse.
L'invité.
Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'invité de ce journal, Mgr Donatien Cholet, va commenter l'investiture du gouvernement souminois et va aussi parler de l'accompagnement par l'Église catholique de ce gouvernement pour la mise en œuvre du programme présenté par la Première ministre. Il s'entretient avec Grâce Hamzati.
Mgr Donatien Cholet, bonjour.
Bonjour.
Finalement, le gouvernement souminois est investi par l'Assemblée nationale après une longue période d'attente, marquée notamment par des tractations politiques. Quelle est votre première impression?
D'abord, c'est une satisfaction qu'enfin on ait un gouvernement en place pour servir le peuple congolais. Ce n'est pas le moment de donner des impressions, c'est plutôt le vœu que ce gouvernement se mette effectivement en œuvre pour le changement tant attendu par le peuple congolais. Le président de la République, dans son discours après les élections, s'était engagé à corriger les erreurs passées. Ces erreurs ne seront pas corrigées sans l'implication du gouvernement. Donc, nous souhaitons bonne chance à ce gouvernement, Madame le Premier ministre et tous les ministres. Et comme Église, nous avons l'obligation de les accompagner pour la réussite de leur mission. Concrètement, notre commission épiscopale Justice et Paix fera une sorte de monitoring de la mise en œuvre du programme de gouvernement pour aider le gouvernement aussi à évaluer progressivement son programme. Et je crois que le peuple congolais en bénéficiera.
La première ministre prévoit la mobilisation des 18 milliards de dollars américains par an pour matérialiser ces programmes d'action du gouvernement qui se fondent sur 6 piliers. Est-ce que, selon vous, ces programmes rencontrent les attentes de la population?
Bon, je crois que si il est mis en application, il n'y a pas de programme parfait, mais ce programme, à le lire, s'il est mis en application comme tel, il y aura certainement des retombées sur la vie du peuple congolais. C'est ce qui nous préoccupe le plus. Si le gouvernement réussit à mobiliser les 18 milliards, il ne suffit pas de les mobiliser, mais il faudra aussi bien les gérer. Et il faudra qu'on mette fin au système de détournement auquel on est habitué. Il faut une conjugaison d'efforts, il y a plusieurs éléments qui devraient entrer en jeu pour que si on arrivait à mobiliser ces 18 millions, qu'il y ait vraiment un changement dans la vie du Congolais.
Et selon vous, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui pour le peuple congolais?
Pour le peuple congolais, c'est d'abord de vivre dignement. Vivre dignement, c'est-à-dire les besoins élémentaires fondamentaux de toute personne humaine soient rassurés et garantis par le gouvernement. Il s'agit de la vie au quotidien, il s'agit des soins médicaux, il s'agit de l'éducation et aussi de la sécurité.
Alors, ce gouvernement arrive au moment où le pays est menacé par la guerre, notamment dans sa partie est. Pensez-vous que c'est un défi qui sera relevé tout de suite au regard du programme de ce gouvernement?
Tout dépendra de la capacité de ce gouvernement autour du chef de l'État à manager cette réalité. La SENCO a toujours lancé un appel qui malheureusement est resté sans suite par rapport à cette crise. C'est de créer un cadre de renforcement de la cohésion nationale autour de cette crise pour renforcer la diplomatie de l'État, c'est-à-dire que les forces vives de la République se retrouvent autour de cette question pour l'analyser profondément, pour dégager une option nationale qui renforcerait la diplomatie. Il ne s'agit pas d'un dialogue pour partager le pouvoir, nous parlons précisément de la question de l'Est.
Et quelles sont vos recommandations, les recommandations de l'Église catholique à ces nouveaux gouvernements pour que les attentes du peuple congolais soient réalisées? Et la Première ministre parle notamment de la paix, la création d'emplois, l'accès aux soins de santé, à l'eau et à l'électricité, mais aussi la stabilité du taux d'échange.
De manière générale, la SENCO ne peut que encourager le gouvernement à mettre en pratique de façon sérieuse son propre programme. Pour le reste, il y aura certainement une approche au niveau de la SENCO pour rencontrer le chef du gouvernement et changer un peu dans le détail sur certains aspects.
Le gouvernement, tant attendu, commence son travail. Un mot à la population.
Je recommanderais à la population de faire confiance à ce gouvernement, de lui faciliter la tâche dans l'exécution de son programme, mais aussi d'être vigilante. Vigilante pour ne pas tolérer le dérapage en sa défaveur.
Monseigneur Donatien Chollet, je vous remercie.
Je vous en prie.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Dieudonné Nyangasa et présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. Je vous retrouve à 16h, heure de Kinshasa, pour un autre point de l'actualité sur Radio Okapi. Place à présent au journal des sports avec Kanish Mukongo Fouanikizi.